franceinter.fr.
Le journal Sébastien Legénie, bonjour.
Bonjour Marc, bonjour à tous. À la une ce matin, une nuit calme à Aulnay-sous-Bois, mais une situation toujours tendue entre jeunes et policiers. Les policiers qui s'inquiètent de voir leur image une fois de plus très écornée. De leur côté, des associations de défense des droits de l'homme lancent un appel pour réformer le contrôle d'identité. Y a-t-il un problème de conflit d'intérêts dans l'équipe de François Fillon? L'équipe du candidat de la droite accueille en son sein l'ancien PDG des assurances AXA. AXA avec laquelle la société de François Fillon était sous contrat. Les taux d'intérêt à 10 ans augmentent de plus en plus en France, signe peut-être que la présidentielle inquiète les marchés financiers. Les taux d'intérêt, la dette, l'argent public, ce sera au cœur de votre interview tout à l'heure à 8h20. Marc, votre invité sera le premier président de la Cour des comptes.
Oui, Didier Migaud, qui a donc rendu son rapport hier, il s'alarme d'un relâchement des dépenses publiques. Il ne croit pas aux prévisions du gouvernement. Et son rapport, comme chaque année, liste aussi les petits et grands gâchis d'argent public à l'hôpital, chez les buralistes, dans la formation professionnelle ou encore l'écotaxe. Toutes vos questions à Didier Migaud entre 8h30 et 9h01, 45 24 7000.
Au sommaire également, le premier procès des proches des frères Kouachi, les Français qui vont bientôt pouvoir auto-consommer l'électricité qu'ils produisent, et la rencontre entre deux monstres sacrés. Depardieu chante Barbara à partir de ce soir au Bouffe du Nord. L'affaire de la brutale interpellation de Théo à Aulnay-sous-Bois va-t-elle de nouveau enflammer les banlieues? À ce stade, rien ne permet de le dire, mais la tension semble progressivement retomber. Contrairement aux quatre nuits précédentes, la nuit dernière a été assez calme, pas d'incident majeur, seulement quelques départs de feu rapidement maîtrisés à Drancy, Villepinte, Clichy-sous-Bois ou encore Blanc-Ménil. Au Blanc-Ménil, hier soir, les premières condamnations sont tombées sur 17 personnes présentées à la justice, dont 11 mineurs. Deux jeunes majeurs ont écopé de prison pour embuscade, 6 mois ferme. Hier soir, plusieurs manifestations contre les violences policières ont eu également lieu un peu partout en France. Quelques centaines de personnes à Nantes, à Rennes ou à Paris. Avec cette affaire, depuis une semaine, c'est toute l'image de la police qui s'est à nouveau dégradée. Résultat, sur le terrain, la situation est de plus en plus tendu entre jeunes et forces de l'ordre, des policiers qui par ailleurs ne se sentent pas soutenus par les pouvoirs publics. Écoutez le témoignage anonyme de ce policier de banlieue, Dominique, en poste en Seine-Saint-Denis.
Depuis dimanche, nous on est en permanence en alerte pour sécuriser. On a pu voir donc des provocations permanentes, on a pu voir certains tags comme « nique la police »,« police violeur », enfin il y a les véhicules qui passent devant nous à fond, qui provoquent, qui s'arrêtent, qui klaxonnent, qui font des doigts, qui insultent, qui... Il y a une tension permanente. C'est un jeu, cet événement avec l'affaire donc Théo, ça a été, on va dire, une bonne occasion pour eux de s'en prendre à nous.
Est-ce que vous avez le sentiment qu'avec cette affaire, on met tous les policiers dans le même sac?
Bien sûr, c'est un gros problème, parce que du coup, on perd énormément de choses, notre image, notre crédibilité, tout, par rapport à une affaire isolée de quelques collègues. On a l'impression que l'État, en fait, ne veut pas le reconnaître. Le président de la République qui s'est déplacé au chevet de Théo, est-ce qu'il s'est déplacé au chevet des collègues qui se sont fait brûler à Viry-Châtillon? On accentue cette dégradation des conditions de travail de par le fait qu'on ne donne ni de moyens, ni de réponses, on va dire, et pénales et du gouvernement.
Un témoignage recueilli par Nathalie Hernandez. Et de leur côté, plusieurs associations lancent un appel au gouvernement pour mieux encadrer les contrôles de police. La Ligue des droits de l'homme, SOS Racisme, la LICRA, mais aussi le syndicat de la magistrature ou Assez le Feu demandent à l'exécutif de prendre des mesures concrètes avant la fin du quinquennat. Claire Chaudière.
Impossible de regarder cette photo du président Hollande à l'hôpital au chevet de Théo sans repenser aux engagements du candidat Hollande en 2012, lâche Slim Benachour. Pour cet avocat, membre de la plateforme associative de lutte contre les contrôles d'identité discriminatoire, si elle ne s'accompagne pas d'une réelle réponse politique, cette empathie sonne malheureusement faux.
C'est pathétique. Le gouvernement sera acculé à modifier la relation police-citoyen. Les faits vécus par Théo révèlent, non pas un fait divers, mais un système, une culture. Aujourd'hui, les autorités, les plus hautes autorités sont obligées de réagir parce que les faits sont incontestables.
Comme solution très concrète, il y a donc la mise en place du récépissé de contrôle d'identité, rejeté par le précédent gouvernement mais plus que jamais d'actualité, répète le collectif. Et à court terme, il faudrait au grand minimum réaliser sans attendre un audit des pratiques dans de nombreux commissariats. Pas vraiment l'ambiance du moment, soupire Issa Koulibaly, militant associatif des quartiers populaires.
Il y a une réponse dans le sens inverse. On va mettre en place des discussions à l'Assemblée sur les revendications des policiers, on va opposer à la colère des habitants de ce quartier plus de policiers et plus de raisons que ça dégénère.
Un appel qui vaut aussi pour les candidats à la présidentielle. Pour l'instant, aucune réaction ou proposition véritablement à la hauteur des enjeux, déplore le collectif associatif.
Le reportage de Claire Chaudière a noté que les députés ont approuvé la nuit dernière le projet de loi sur la sécurité publique. Il doit assouplir les règles de la légitime défense pour les policiers et les aligner sur celles des gendarmes. Ce texte devrait être adopté définitivement d'ici 2 semaines.
8h06, la suite du journal. Sébastien Logeni, le mea culpa de François Fillon, semble pour le moment avoir du mal à convaincre les électeurs.
Oui, pas moins de 3 sondages donnent le candidat des Républicains éliminé au 2e tour de la présidentielle, à chaque fois derrière Marine Le Pen et Emmanuel Macron, y compris dans l'hypothèse d'une candidature de François Bayrou. François Bayrou qui a donné hier le dernier coup le plus dur. Le leader du Modem accuse le candidat de la droite d'être, je cite, sous l'influence des puissances d'argent. Derrière cette accusation, c'est la société 2F qui est visée, la société de consulting de François Fillon qui a notamment travaillé pour le compte d'AXA, les assurances AXA dont l'ex-PDG Henri de Castres fait désormais partie de l'équipe de François Fillon. Alors, y a-t-il un problème de conflit d'intérêts? Réponse avec Marion Lourd.
Conseiller AXA et son patron, François Fillon l'a fait. Travail pas du tout fictif, nous assure un proche. Là-dessus, on est blindé de chez blindé. Mais avait-il le droit de le faire? Oui, car l'Assemblée autorise aux députés les activités de conseil pour peu qu'elles datent d'avant leur élection. Or, la société 2F est née 3 jours avant le premier tour des législatives 2012. Un député et ex-premier ministre a le droit de travailler et d'avoir des amis, revendique un parlementaire. C'est vrai, n'empêche, cette proximité avec le premier assureur mondial suscite des questions chez les associations. Plutôt d'ailleurs concernant le programme de François Fillon sur la santé, réserver la sécu aux affections graves. Henri de Castres n'a rien à voir avec cette mesure, nous assure-t-on chez les Républicains. L'ex-PDG lui-même s'en défend. Sur l'activité de conseil, le déontologue de l'Assemblée l'avoue, il ne peut rien faire. Son rôle est préventif. Impuissance qui irrite les associations. Transparency réclamait dès la loi de 2013 un plafonnement des salaires gagnés en conseil privé et militait aussi pour une obligation, celle de se retirer du vote quand il concerne un sujet dans lequel un élu a des intérêts. Rendez-vous manqué.
Oh, Marion Lourd du service économie de France Inter. François Fillon, lui, continue vaille que vaille sa campagne. Aujourd'hui, il sera à Chasseneuil dans la Vienne aux côtés de Jean-Pierre Raffarin. En politique toujours, c'est ce soir que Marine Le Pen sera l'invitée de France 2, l'invitée de l'émission politique. L'hypothèse Le Pen à la présidentielle commencerait-elle d'ailleurs à inquiéter les marchés financiers? Ce qui est sûr, c'est que le taux d'intérêt à 10 ans ne cesse de grimper en France et donc le spread, comme on dit, l'écart de taux avec l'Allemagne, lui aussi ne cesse d'augmenter. On connaît aujourd'hui le plus grand écart de taux depuis 4 ans entre les deux pays. Et ce sont bien les présidentielles françaises qui en seraient la cause. Bruce de Galzin.
C'était la une du Financial Times, le scandale Fillon, la crainte Le Pen. En page 2 du Corriere della Sera, en Italie, Le Pen effraie les marchés. Fantasme ou réalité? Et les investisseurs s'inquiètent en effet du risque politique en France, incarné par Marine Le Pen. Et Jean-Luc Mélenchon explique François Chollet, directeur général de Monségur Finance.
Il y a un effet élection sur les taux d'intérêt et il y a effectivement un petit effet Le Pen, même si on peut imaginer qu'il y a maintenant 2 candidats qui ne sont pas forcément très pro-européens dans l'échiquier politique français et qui dépassent plus de 10%. Donc on est bien dans un scénario qui fait un petit peu peur. Lorsque vous êtes un investisseur anglo-saxon, lorsque vous êtes un investisseur chinois, vous voyez des statistiques et des sondages qui peuvent vous inquiéter. Et on a du mal à imaginer le fonctionnement de chaque pays. Et donc, tout simplement, ils passent leur chemin en achetant de la dette allemande au détriment de la dette française.
Les grandes banques comme JP Morgan recommandent en effet de vendre la dette française, tout en estimant le risque de voir Marine Le Pen présidente quasi nul, seulement 3% de probabilité. Paris spéculatif donc, le gouverneur de la Banque de France estime lui que ces tensions sur le taux français sont temporaires.
Bruce de Galzin, peut-être bientôt une journée nationale de commémoration de tous les génocides, dont le génocide arménien en France. C'est François Hollande qui en a fait l'annonce hier soir lors du dîner annuel du Conseil de coordination des organisations arméniennes.
C'est le premier procès dans la nébuleuse des frères Kouachi, les auteurs de l'attentat contre Charlie Hebdo.
Les 2 hommes passeront aujourd'hui devant le tribunal correctionnel de Paris, poursuivis pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste. Ils ont été interceptés peu avant les attentats de janvier 2015 sur la route de la Syrie. Charlotte Piret.
L'un, surnommé Lafrite, est arrêté avec son fils de 3 ans et une jeune femme dont il projetait de faire sa deuxième épouse, une fois rejoint les rangs de l'État islamique. L'autre est intercepté le 7 janvier 2015 à la frontière turco-syrienne. Le 7 janvier 2015, jour des attentats de Charlie Hebdo, perpétrés par Saïd et Chérif Kouachi, que les deux prévenus connaissent bien. Et même s'ils démentent toute velléité de djihad, expliquant aux enquêteurs qu'ils allaient en Turquie pour la mosquée que tout le monde visite, les pierres historiques ou même la plage d'Ankara, pourtant très éloignée des côtes, certains signes ne trompent pas, selon le parquet. Le drapeau islamique en fond d'écran, les photos de décapitation sur disque dur, même le fait de suivre sur Twitter le chercheur et spécialiste du djihadisme Romain Caillet devient un élément à charge. Pas le seul, heureusement. En réalité, c'est surtout le tissu relationnel des deux hommes. 368 contacts en 6 mois avec Chérif Kouachi pour l'un, des cours avec celui qui est alors le prédicateur des buts de Chaumont, Farid Benyettou, pour l'autre, et surtout un précédent séjour en Irak qui lui avait valu 7 ans de prison sur place.
À l'étranger, Donald Trump n'aura pas mis longtemps à mélanger les genres entre politique et affaires familiales. L'enseigne Nordstrom a renoncé à vendre la ligne de vêtements de sa fille Ivanka pour raisons économiques, dit-elle. Réponse du président par tweet, évidemment, ma fille a été traitée de manière injuste, c'est terrible. Nouvelle étape franchie en Grande-Bretagne vers le Brexit. Les députés de la Chambre des communes ont adopté hier le projet de loi de Theresa May, la première ministre, pour lancer la procédure de sortie de l'Europe. Le texte doit maintenant être adopté par la Chambre des Lords. Produire sa propre électricité, c'est une chose, mais pouvoir la consommer en est une autre. Une loi est actuellement en débat devant les parlementaires français pour faciliter ce qu'on appelle l'autoconsommation d'électricité pour les particuliers. Les députés devraient valider le texte aujourd'hui. En France, plus de 300 000 possesseurs de panneaux solaires sont concernés. En Allemagne, pays des énergies renouvelables, l'autoconsommation y est déjà très développée. C'est le cas du village de Feldheim, près de Berlin. Le reportage de Pascal Thibault.
A priori, Feldheim, avec ses panneaux solaires, ses éoliennes et une installation de biogaz de sa coopérative agricole, ne se distingue pas de nombreuses autres communes. Sauf que la municipalité et les habitants ont décidé de créer leur propre réseau. Des aides européennes, des emprunts et des prises de participation des habitants, 3000 euros par personne, ont financé l'investissement. Michael Knappe, le maire de Feldheim.
Nous produisons 100% de notre électricité et de notre chauffage avec des énergies renouvelables et de façon sûre. Personne ne doit avoir peur de geler un jour ou de se retrouver dans le noir. Et tout cela est rentable et fonctionne.
L'inauguration de la plus grosse batterie d'Europe permet de stocker l'énergie produite et comme la production est sensiblement plus élevée que les besoins, Feldheim revend le surplus. Pour les habitants, la note est moins salée que dans le passé. Les bénéfices restent dans le village où des emplois ont été créés pour gérer le réseau et les unités de production. Werner Frohwitter, porte-parole de l'entreprise, propriétaire des éoliennes du village.
À l'avenir, la production d'électricité se répartira entre de nombreux acteurs. Le citoyen lambda produira ce dont il a besoin pour sa consommation ou pour la revente.
L'exemple de Feldheim a beaucoup fait parler de lui. 3000 visiteurs viennent depuis chaque année sur place pour découvrir ce modèle. Berlin, Pascal Thibault, RFI pour France Inter.
Un mot de sport avec le premier but de Dimitri Payet hier de retour à l'OM. Il aura fallu attendre toutefois la 76e minute pour qu'il marque face à Guingamp. Résultat final 2-0. Dimitri Payet est soulagé.
J'avais à cœur de retrouver vite des sensations, que ce soit dans le jeu ou bien évidemment dans la dernière passe ou dans la finition. Je suis libéré, ça me libère parce que c'est vrai que voilà, quand on est transféré, peu importe le club, c'est vrai que c'est toujours mieux de marquer ou d'être décisif rapidement. C'est pas le plus beau de mes coups francs, mais je prends.
Dimitri Payet au micro de Stéphane Burgat. Et puis ce sera le début aujourd'hui des mondiaux de biathlon en Autriche. On attend évidemment un carton plein de notre star nationale, le roi incontesté de la discipline, Martin Fourcade, quadruple médaillé d'or à Oslo il y a un an. On termine avec la rencontre entre deux monstres sacrés il y a un peu plus de 30 ans, Depardieu et Barbara se retrouvaient ensemble sur scène pour le spectacle musical Lily Passion, bien peu le connaissent, le fruit artistique d'une grande amitié entre les deux artistes. Et ce soir, eh bien, le comédien sera sur la scène des Bouffes du Nord pour une série de concerts hommage. Depardieu chante Barbara, un disque sort également demain, enregistré chez la chanteuse à Précy-sur-Marne. 14 chansons, 14 classiques de l'Aigle Noir en passant par Nantes ou encore Göttingen. Mathion Culeron.
Un matin comme celui-là, il y a bien longtemps déjà, la ville avait ce teint blafard lorsque je sortis de la gare.
Et si Depardieu était la personne qui avait le mieux connu Barbara? C'est le premier sentiment qui frappe celui qui écoute ce disque. Une sensation renforcée par l'écoute de ce titre « À force d'eux », un texte de Guillaume Depardieu, son fils, morceau autrefois chanté par Barbara.
« À force de m'être cherché, c'est toi que j'ai perdu. »
L'acteur avoue ne rien avoir prémédité avec Gérard Daguerre, le dernier pianiste de Barbara. Et on a bien du mal à le croire. L'acteur n'a en effet rien dit à la disparition de la chanteuse il y a de ça 20 ans. Et ce n'est qu'aujourd'hui qu'il décide de prendre la parole. Car Depardieu parle plus qu'il ne chante sur ce disque. Et il semble parler avec son cœur.
Je t'ai perdu. Je t'ai perdu.
Elle aimait sa liberté, il était tombé amoureux par hasard de sa voix, elle lui a rendu la parole. Lui qui avait sa chambre chez Barbara, lui qui connaissait ses secrets, il faut donc prendre ce disque pour ce qu'il est, l'hommage intime d'un immense acteur et d'un chanteur pudique.
Une petite cantate du bout des doigts, hop c'est dans tes mains la droite monte vers toi. Une petite cantate que nous jouions autrefois, seul je la joue maladroite. Cette petite cantate.
Gérard Depardieu qui chante Barbara, c'est donc au Bouffe du Nord jusqu'au 18 février prochain.
Et c'était le journal de Sébastien Logénie sur France Inter. Merci Sébastien. La route, c'est avec Agera Mohamed. Ça roule au ralenti ce matin dans le nord de la France.
Oui, sur la 1, vous mettez plus d'une heure pour rejoindre Lille depuis Arras. Bouchon également qui quitte Nantes sur la 82 en direction de Brest après un accident à Saint-Herblain. Et puis en région parisienne, vous ralentissez en direction de Paris à partir de Sannois dans le Val-d'Oise où un accident entre trois voiture bloque la voie de droite. Enfin, prudence, si vous roulez entre la Vendée et le Maine-et-Loire ce matin, une bande de brouillard réduit la visibilité.
La météo avec Eliade, créateur de Voyages en Grèce et Îles Grecques. Un large choix de formules de vacances au départ de votre région à découvrir sur eliade.fr.
Stéphanie Fromentin, de la pluie ce matin en Corse, mais ça va se calmer.
Alors qu'à l'opposé de la Bretagne, à l'Aquitaine, le soleil fera de belles éclaircies cet après-midi, gagnant le Languedoc-Roussillon cet après-midi. L'est de l'île de Beauté subit encore de fortes pluies soutenues, continues et parfois orageuses. Des chutes de neige sont même attendues des 1200 mètres. Cet après-midi, ces ondées vont s'estomper. Ce temps perturbé va déborder sur les Alpes frontalières, avec de la neige à partir de 500-600 mètres. Le littoral provençal n'échappera pas à quelques gouttes de pluie. Ailleurs, de la Normandie au nord-est, en passant par l'Île-de-France jusqu'au Massif central, le ciel reste bâché, gris, donnant de rares pluies, voire quelques flocons en début de journée sur l'Auvergne et le nord de Rhône-Alpes. Le vent reste sensible dans le sud-est avec des rafales voisines de 60 à 80 km à l'heure, soutenues sur la Corse jusqu'à 100 km à l'heure sur la Balagne. Le risque d'avalanche sur les Pyrénées est réactivé.
Et le mercure descend encore.
Les gelées matinales font leur réapparition dans le nord-est. Il fait plus doux en bord de Méditerranée avec 5 à 9 degrés. Sinon, vous vous réveillez en général avec moins 2 à 3 degrés. Cet après-midi, le thermomètre affichera 3 à 6 degrés sur la moitié nord, 7 à 11 sur la façade atlantique comme dans le sud, jusqu'à 10 à 14 dans le sud-est. Il fera 13 à Nîmes, 10 à Montauban, 8 à Paris, 4 à Dunkerque, 6 à Auxerre et 7 à Tours, à Auxerre, pardon.
Bravo pour la prononciation, vous allez nous fâcher avec les iconés. Merci Stéphanie Fromentin, voici Géopolitique.
France Inter.
Le 7-9. Bonjour Bernard Guetta.
Bonjour, bonjour.
Ce matin, l'Europe et le docteur Trump.
Et puis, Zilu Trump. Jusqu'à l'arrivée de cet homme à la Maison-Blanche, les conservateurs polonais au pouvoir depuis 2 ans n'avaient pas de mots assez durs pour critiquer l'Union européenne dont leur pays est membre depuis 2004. Ils ne voulaient pas la quitter, bien sûr, car l'économie polonaise y perdrait trop, mais ils détestaient et dénonçaient tout à la fois la supranationalité de l'Union, l'évolution des mœurs dans ses principales capitales, le poids qui occupe l'Allemagne, toujours considérée comme un ennemi héréditaire par le parti Droite et Justice, le PIS, et cette idée surtout que la Commission avait eu de résoudre la crise des réfugiés en les répartissant entre États membres. La Pologne était en si mauvais termes avec le reste de l'Union qu'en septembre dernier encore, le leader historique du PIS, Jaroslaw Kaczynski, convergeait avec le Premier ministre hongrois, le très autoritaire et nationaliste Viktor Orban, pour appeler à une contre-révolution culturelle visant à réaffirmer les nations européennes contre l'hégémonie allemande. Vu de Paris et Berlin, la Pologne devenait un vrai problème. Mais lorsque les Britanniques ont caressé l'ambition de se maintenir dans le marché unique tout en fermant leurs frontières aux ressortissants de l'Union, les conservateurs polonais se sont brusquement rapprochés des Allemands, des Français et de la Commission. Ils avaient besoin de leur appui car beaucoup de leurs compatriotes vivent et travaillent en Grande-Bretagne, d'où ils envoient de l'argent à leur famille. Leur expulsion serait une catastrophe économique pour la Pologne, qui a ainsi fait front avec Paris et Berlin dans la fermeté vis-à-vis de Londres. Quelque chose déjà avait changé dans l'Union. Les lignes s'y redessinaient d'autant plus que la Hongrie de Viktor Orban amorçait parallèlement un rapprochement avec Moscou. Et puis,
il y eut Trump.
Et oui, Marc. Là, le ciel est tombé sur la tête des conservateurs polonais, car ce nouveau président américain qui ne tarit pas d'éloges sur Vladimir Poutine et met en doute la pérennité de l'Alliance Atlantique a semé la panique à Varsovie. Les Polonais se sont vus en danger de se retrouver seuls face à la Russie et se sont sentis tellement isolés qu'il leur fallait raccrocher les wagons avec leurs partenaires de l'Union. Ça tombait bien. Car la France et l'Allemagne ont besoin de leur côté que la Pologne ne fasse pas obstacle à leur volonté d'aller de l'avant dans l'intégration européenne en faisant de l'Union une Europe à plusieurs vitesses, concept que les Polonais n'aiment guère. Madame Merkel était donc mardi à Varsovie. Le contentieux n'était pas mince, mais les choses se sont plutôt bien passées car l'idée d'une défense commune séduit désormais tant Jaroslav Kaczynski qu'il en était hier à évoquer l'espoir d'un parapluie nucléaire européen qui ferait de l'Europe, a-t-il dit, une superpuissance, tout ce dont il ne voulait pas entendre parler jusque-là. L'Europe n'est décidément pas morte et c'est à Monsieur Trump qu'on le doit.
Merci Bernard Guetta et à demain dans 30 secondes, on ouvre le rapport de la Cour des comptes avec son président.
Maintenant, je vais rentrer dans mon village et je m'y tiendrai à la disposition du pays.
La marche de l'histoire.
Il faut que nous partions, mon général.
Maintenant ? Dommage, j'avais des joues de bœuf à déjeuner.
Jean Lebrun.
1958, Colombey, Paris. 1815, l'île d'Elbe, les Tuileries.
Il avait dit, l'aigle volera de clocher en clocher.
Tout à l'heure dans la marche de l'histoire avec Patrice Guénifet, Napoléon et De Gaulle.
À partir de 13h30.
8h21.
Le 7-9 de France Inter. Première matinale de France. À suivre aussi en vidéo sur franceinter.fr.
Bonjour Didier Migaud.
Bonjour.
L'institution que vous dirigez, la Cour des comptes, a donc publié hier son rapport annuel, 1300 pages, vous êtes venu avec ce matin, merci, dans lesquels vous dénoncez les petits et grands gâchis d'argent public, l'écotaxe, la formation professionnelle, les aides aux buralistes, les hôpitaux corses, on va s'y arrêter ce matin en longueur, mais d'abord c'est votre jugement sur les finances publiques en général qui retient l'attention. Vous ne croyez pas au retour des déficits publics sous la fameuse barre des 3% pour cette année, c'est pourtant l'objectif affiché par le gouvernement. Pourquoi vous n'y croyez pas ?
Il y a des progrès réels en ce qui concerne la situation de nos finances publiques, mais ces progrès restent fragiles. Les objectifs de déficit à moins 3,3% devraient être atteints en 2016. C'est une réduction de 0,2 point de produit intérieur brut par rapport à l'année précédente. Sur 2017, pourquoi avons-nous des interrogations ? C'est parce que l'objectif est beaucoup plus ambitieux. Au lieu d'une réduction de 0,2 point, c'est une réduction de 0,6 point que
pour arriver à 2,7% du PIB, c'est l'objectif.
2,7%, c'est effectivement l'objectif. Alors même qu'il y a des facteurs qui ont joué positivement jusqu'à maintenant, qui ne joueront plus positivement. Je pense à la charge d'intérêt. Les taux d'intérêt commencent à remonter. Donc les économies que nous avons pu faire, qui représentent d'ailleurs ces dernières années 40% de la réduction du déficit, nous ne retrouverons pas ces marges de manœuvre. On sait aussi que la contribution de la France au budget de l'Union européenne, qui avait ralenti ces dernières années, devrait reprendre au niveau de son augmentation. Et puis il y a un certain nombre de dépenses supplémentaires, notamment en matière de sécurité intérieure et extérieure, qui ont été votées par le Parlement et que nous retrouvons donc dans les dépenses. Donc nous avons un budget 2017 qui est construit sur des hypothèses macroéconomiques un peu optimistes, comme l'a dit le Haut Conseil des Finances publiques, et avec des dépenses qui en partie ont été sous-estimées. D'où nos interrogations sur le 2,7. C'est pas la Cour des comptes qui fixe cet objectif, c'est le gouvernement qui fixe cet objectif.
En même temps, Didier Migaud, qui, à part la Cour des comptes et vous, croit encore aux 3% et à son intérêt ? Dominique Seul rappelait tout à l'heure, aucun des candidats quasiment ne fixe comme objectif les 3%. Il y a ceux qui disent il faut s'en affranchir définitivement, ça c'est plutôt pour les candidats de gauche, et ceux qui disent comme François Fillon, de toute façon on n'y arrivera pas pour les premières années du quinquennat, on va refaire un peu plus de déficit. On a l'impression que vous êtes le dernier des Mohicans sur ce point-là.
Ça n'est pas la question. La Cour des comptes n'a pas à se substituer aux autorités politiques pour définir les objectifs. Nous, nous raisonnons par rapport aux objectifs qui sont votés par le Parlement sur proposition du gouvernement. Ce n'est pas la Cour qui a fixé l'objectif de 3%. C'est dans un traité international ratifié par le peuple français. Les objectifs de 2,7%, c'est la loi de finances initiale, proposée par le gouvernement, adoptée par le Parlement. Nous, c'est notre référence. C'est pas la référence d'un tel. Un tel, c'est la position de la France. Et le rôle de la Cour des comptes, c'est de raisonner par rapport à l'engagement que prend notre pays vis-à-vis de ses partenaires européens.
Didier Migaud, c'est un reproche qui vous est fait régulièrement, y compris et surtout à gauche, par vos anciens camarades. Vous avez été socialiste, je crois que vous n'avez plus votre carte depuis plusieurs années. Depuis
je dois être impartial et les fonctions que j'ai comme premier président de la Cour des comptes m'imposent une neutralité. Donc je n'ai pas à avoir d'attitude partisane.
Le reproche qui vous est fait, c'est de vous intéresser uniquement aux chiffres. On a entendu hier le député socialiste Malek Bouti dire « La Cour des comptes, finalement, c'est elle qui provoque la crise actuelle, il faudrait même la supprimer. » J'ai aussi en tête les mots de Sigmar Gabriel, le vice-président allemand, qui dit « En France, est-ce qu'il vaut mieux 0,5% de déficit en plus ou Marine Le Pen à l'Élysée ?»
Mais une fois de plus, c'est pas le sujet de la Cour. Où je suis triste et atterré par les propos de Malek Bouti. Une fois de plus, ne faisons pas porter à la Cour des comptes la responsabilité de la situation actuelle et de l'incompréhension que peuvent avoir les citoyens par rapport à telle ou telle situation. Dans des pays, c'est plus facile. Il n'y a pas d'institution supérieure de contrôle. Généralement, on ne les considère pas comme des démocraties. Et le fait d'avoir une institution supérieure de contrôle indépendante de l'ensemble des pouvoirs publics, c'est souvent le garant d'un bon fonctionnement de la démocratie. En plus, nous sommes contrôlés aussi par le Parlement. Malek Bouti est un député. Donc, il vote le Parlement. Il vote aussi le budget de la Cour des comptes. Donc, il a toute possibilité, en participant aux réunions des commissions, de nous interpeller sur ce qu'est notre budget et sur ce que nous en faisons.
Il y a un relâchement budgétaire dans la dernière année du quinquennat, des bombes à retardement dans le budget ?
Il y en a quelques-unes. Il y a un certain nombre de décisions.
Lesquelles ?
Quand vous décidez d'une dépense fiscale, par exemple, vous avez un effet dès 2017, mais le coût est reporté sur 2018. Vous avez un certain nombre de décisions qui effectivement ont été reportées sur l'année 2018. Le rapport de la Cour le montrera. Nous faisons chaque année un rapport sur la situation et les perspectives des finances publiques que nous publions à la fin du mois de juin. En période de changement de législature, ce rapport est encore plus complet. Il représente un véritable audit de la situation des finances publiques. Vous savez, c'est des constats que nous faisons. Nous, une fois de plus, nous raisonnons par rapport à des objectifs et par rapport à une réalité concrète. Bon, je pense que nous contribuons à la transparence. Nous souhaitons éclairer le décideur. Et un décideur ne doit jamais s'offusquer d'être éclairé. C'est lui qui décide en dernier ressort. Ce sont les représentants du suffrage universel qui décident en dernier ressort. Ce n'est pas la Cour des comptes, une fois de plus. Nous ne sommes pas dans un gouvernement des juges. Et c'est heureux. Et puis nous sommes là aussi pour informer le citoyen. Ça, c'est une mission constitutionnelle.
Alors, ouvrons un des chapitres. Vous dénoncez, par exemple, ce qu'on pourrait appeler les fausses économies sur un dossier précis qui est celui des gendarmes mobiles et des CRS. Les effectifs ont baissé assez nettement dans ce secteur, -7,5% sur les 5 dernières années. Moins de CRS, moins de gendarmes en France. Et pourtant, leur coût global a augmenté. Expliquez-nous comment.
Oui, parce que du coup, il y a une plus forte utilisation. Donc, il y a des heures supplémentaires. Et puis, il y a aussi des rémunérations, des régimes indemnitaires qui ont pu être augmentés. Ce qui peut expliquer donc une réduction des effectifs et dans le même temps, une augmentation.
Ce qui veut bien dire que ce n'est pas si simple que ça de faire des économies. Qu'il ne suffit pas de rayer des noms ou de rayer des chiffres sur les budgets.
Mais il ne faut pas toujours raisonner en termes de moyens. Il faut aussi s'interroger sur l'organisation, sur l'utilisation de ces moyens, sur la répartition de ces moyens. On constate par exemple que pour les forces mobiles, police, gendarmerie, elles ne sont pas réparties correctement sur l'ensemble du territoire. Elles sont très utilisées sur Paris. Or, elles ne sont pas toujours basées sur la région parisienne. Donc voilà, on a aussi utilisé nos forces mobiles pour des emplois qui ne correspondent pas obligatoirement à leur doctrine d'emploi.
Des surveillances statiques, notamment, vous donnez un chiffre, etc. Un quart des effectifs seulement des CRS utilisés pour le maintien de l'ordre, que font les autres ?
Ils peuvent être occupés à d'autres fonctions. Alors, ce que nous constatons, c'est qu'il y a un certain nombre de mesures qui ont été prises, à savoir que les effectifs ont été revus à la hausse, qu'il y a un certain nombre de décisions qui ont été prises justement sur l'affectation, sur les missions de ces forces mobiles. Nous encourageons ce mouvement. Vous savez, lorsque... Nous ne sommes pas systématiquement contre la dépense publique. Ne faites pas dire à la Cour des comptes ce qu'elle ne dit pas. Nous appelons à la maîtrise de la dépense publique. Nous appelons à une plus grande efficacité, une plus grande efficience de l'action publique. Nous avons des marges d'efficacité, d'efficience au niveau de notre pays. Nous avons un niveau de dépense plutôt élevé. Quand on compare ce niveau à des pays qui nous sont comparables, en revanche, au niveau des résultats, nous avons des résultats plutôt passables, médiocres, par rapport au niveau de crédit que nous engageons pour telle ou telle politique publique. Donc c'est pour cela que nous disons que nous avons des marges d'efficacité, d'efficience, pour faire en sorte que l'action publique soit encore plus efficace, plus efficiente, sans qu'elle coûte plus cher.
01 45 24 7000, c'est le numéro du standard de France Inter pour poser toutes vos questions au Premier Président de la Cour des Comptes, Didier Migaud, invité de France Inter ce matin. La revue de presse dans une poignée de secondes.
France Inter, partenaire avec France 2, des 32e victoires de la musique, en direct du Zénith de Paris.
Demain, à partir de 20h.
Retrouvez l'intégralité des victoires de la musique sur France Inter.
Avec des révélations,
des invités surprises
et de la musique en live.
Une soirée présentée par Didier Varro
et Rebecca Manzoni.
France Inter et le Crédit Mutuel donnent le la aux victoires de la musique.
Souriez, c'est vendredi.
8h32. Bonjour Laetitia Gaillet.
Bonjour Marc.
À la une de votre revue de presse ce matin, prendre de la hauteur.
C'est un jardin extraordinaire de plus de 3 hectares qui verra le jour à l'horizon 2021-2022. En son centre, il accueillera un projet unique, peut-on lire dans Presse Océan, l'arbre au héron à Nantes. 22 branches qui surplomberont la ville. Le but, dit-on, est de faire de l'arbre au héron à Nantes ce qu'est la Tour Eiffel à Paris. Ses promoteurs plaident pour cette nouvelle vitrine du savoir-faire nantais, un levier pour le tourisme, car le visiteur pourra se balader à l'intérieur. Le directeur des machines de Lille, à l'origine du projet, rêve lui de donner une visibilité mondiale à Nantes, car c'est un projet artistique mais aussi économique, 35 millions d'euros, qui seront financés en partie par la métropole, les collectivités locales, l'État, le privé et le participatif. La métropole doit décider demain de la forme juridique du financement.
Financer la culture à l'heure où les comptes sont donc dans le rouge.
Au lendemain de la publication du rapport de la Cour des comptes, un rapport qui critique pêle-mêle, vous l'avez dit, les dépenses chez les douanes, les hôpitaux corses ou encore l'immense gâchis de l'écotaxe, comme le titre à sa une le Télégramme. Pour l'opinion, c'est d'ailleurs le scandale royal. La ministre moi-jeu. Elle exige, tranche, confirme ou infirme, sans toujours se soucier de savoir si l'intendance peut suivre, ni de la nécessaire solidarité gouvernementale. On traque l'enrichissement sans cause, écrit Nicolas Bétou. On néglige la dépense sans cause. Il faut désormais pouvoir tracer l'argent de chacun, mais on se moque toujours autant de savoir ce que devient l'argent de tous. C'est l'argent de personne. Au lendemain donc de ces critiques à foison, on peut se demander où l'argent public pourrait être utile. Les écoles d'art, répond Télérama, car elles sont aujourd'hui menacées du fait de la baisse des subventions et du désengagement de l'État. Il y en a 45 en France et qu'on ne s'y trompe pas, artiste ou non, le taux d'insertion professionnelle dans les 3 ans est de 85% entre les métiers du web, l'événementiel ou le cinéma. Les possibilités sont multiples du moment que l'on possède cette capacité d'innovation traquée par les DRH. Et pourtant, certains élus ne voient pas bien le rapport entre l'art contemporain et leur territoire, ses racines, son patrimoine. Ils se débarrassent aujourd'hui de leurs écoles en croyant faire des économies. Très mauvais calcul pour le premier adjoint au maire de Biarritz. En termes d'attraction et de rayonnement, il n'est pas meilleur outil pour une région. Prendre de la hauteur avec l'arbre au héron de Nantes n'est peut-être pas une si mauvaise idée.
Prendre de la hauteur, certains l'ont fait ces derniers mois, mais pas pour les mêmes raisons.
Direction Bure, aux confins de la Meuse et de la Haute-Marne, sur le site de Reporter, un arbre et une cabane en son sommet. 12 mètres carrés, toilettes sèches, réchaud, mini-bibliothèque et lit sur lequel s'empilent de chaudes couvertures. Un havre de paix pour Lilou qui vit vie perchée là-bas depuis près d'un mois. Le seul moment dur, c'est quand les chaussures ont gelé au petit matin, sourit-il. Ici, le thermomètre descend souvent en dessous de zéro. À Bure, on résiste, poursuit Politis. On résiste au projet Cigéo d'enfouissement des déchets radioactifs. Face à cette offensive, les opposants investissent les arbres et s'implantent durablement malgré la demande d'expulsion que le tribunal de Bar-le-Duc doit étudier ces jours-ci. Reporters et Politis décrivent les mêmes gens, des jeunes qui voient en Bure un lieu qu'il faut revitaliser, une terre de création. Le terme fait débat. Bure n'est pas sans rappeler en tout cas la ZAD de Notre-Dame-des-Landes ou encore Tarnac en Corrèze. Libération est revenue sur les terres de cette commune passée à la postérité en 2008 à l'occasion d'une descente de police sur une dizaine d'activistes d'ultra-gauche soupçonnés d'avoir saboté des caténaires de lignes TGV. Aujourd'hui à Tarnac, même s'ils ont passé la quarantaine, on les appelle toujours les jeunes. Qu'ils plaisent ou non, en tout cas, ils font vivre le village. Avec leurs enfants, ils ont permis par exemple le maintien de l'école. Et on est loin du cliché, affirme l'un d'eux, tous sous la yourte aux ordres du gourou. Une septuagénaire confirme « Si nos jeunes, c'est des terroristes, alors c'est quoi ce que vous avez à Paris ? Nos terroristes, c'est des gentils. » Une employée de la maison communale l'affirme « C'est pas au Quai Coral, Tarnac c'est un bled normal avec des trucs décalés, comme l'était le festival des chants révolutionnaires. » Sympa quoi. « Rien à foutre, dit un autre, le monde peut s'effondrer demain. » Je m'en fous.
À Aulnay-sous-Bois, en revanche, un certain monde s'est effondré.
On ne digère pas ce que Marianne et le Parisien aujourd'hui en France n'hésitent plus aujourd'hui à qualifier de bavure. La police est clairement en accusation, titre également La Croix. Alors le Parisien reprend le fil des 5 minutes qui ont embrasé Aulnay. On n'y apprendra pas grand-chose de plus que ce que l'on sait déjà, si ce n'est une perception différente. D'après les policiers, Théo aurait dit au policier qui interpellait un de ses copains « Tu fais pas ça, je m'en bats les couilles de ton contrôle, tu fais pas ça ». Théo, lui, assure avoir dit ceci. Pourquoi vous faites ça? Ça va envenimer les choses pour rien. La colère gronde à Aulnay, reprend La Croix. Le fils de Samira a été interpellé lors des violences. Elle est anxieuse. Je ne comprends pas. J'ai donné à mes 3 enfants une éducation au respect. Je vous le dis franchement, si mon fils a fait quelque chose, je soutiendrai la police. Mais je doute qu'il ait fait quelque chose. C'est un bon élève. Comment a-t-il pu se retrouver là-dedans? Et comment un policier a-t-il pu agir comme il l'a fait avec Théo? Qu'est-ce qu'on va dire à nos enfants maintenant? Eh bien, Samira pourra raconter ce matin que la presse du monde entier s'époumonne, par exemple, sur Donald Trump, sur les attaques du président américain sur le monde de la justice, comme l'écrit le Los Angeles Times, sur Steve Bannon, son conseiller stratégique, son Rasputin, selon Figaro, sur ceux qui, aux États-Unis, résistent au nouveau président américain, comme le titre L'Humanité à sa une, ou encore sur ceux qui en ont un tout petit peu peur, comme le premier ministre japonais. D'après les échos, Shinzo Abe va promettre lors de sa visite demain à Washington 700 000 emplois à Donald Trump, car il s'agit de ne pas braquer son allié, qui est aussi son plus grand partenaire commercial.
Et puis Samira pourra aussi dire que Valeurs Actuelles lance une pétition aujourd'hui.
Une pétition nationale à destination des médias du service public. Alors le texte est assez clair. Rétablissons le pluralisme des opinions dans l'audiovisuel public. Est-il normal qu'aucune émission ne soit confiée à des animateurs ou à des spécialistes de sensibilités différentes? Nous n'acceptons plus que sur France Inter, journalistes, éditorialistes et humoristes soient à l'unisson. Nous n'acceptons plus que les informations d'Arte prennent la forme d'un militantisme qui prône l'immigration sans frontières, le féminisme extrémiste et une écologie jusqu'au boutiste. Nous n'acceptons plus que la grande majorité des débats ignore quasi complètement les classes populaires, les petites gens, les pauvres en général. Prendre de la hauteur n'est peut-être pas une si mauvaise idée, finalement, bonne journée.
Merci, c'était la revue de presse de Laetitia Gaillet. Il n'y a pas d'audit prévu sur les comptes de Radio France, Didier Migaud. Je dis ça pour faire frissonner un peu la direction du groupe qui nous écoute, non?
Il y a eu un rapport il y a quelques années. Donc, nous y reviendrons vraisemblablement d'ici quelques temps pour apprécier les suites qui ont été apportées à nos constats et à nos recommandations.
Voilà, message transmis à Mathieu Gallet. Dans un quart d'heure, Frédéric Becbédé pour son billet. Bonjour Frédéric.
Bonjour Marc. Eh bien moi, aujourd'hui, je vais régler le problème de l'immigration en 3 minutes 30.
Ah, à tout à l'heure. On fait rentrer un peu d'argent dans les caisses de l'audiovisuel public et dans un instant, Didier Migaud face à vos questions.
Lundi au jeudi soir sur France Inter.
Le nouveau rendez-vous, c'est l'émission énervée du soir.
Laurent Goumard.
2 heures tendues sur le fil de l'actualité culturelle et ce jeudi, un scandale politico-financier avec Eva Joly et Judith Pérignon pour leur nouveau roman noir. Et dans le énervé la suite, la musique Cri-Victoire. Ah non, c'est les victoires de la musique.
Le nouveau rendez-vous, ce soir sur France Inter, à partir de 22h.
Julien, tu sais où ils sont mes collants?
Bah ils sont à leur place. Sous lit, il y a un carton à chaussures, dessus c'est écrit pullover, bah tes collants ils sont dedans.
Ah bah oui.
Bah évidemment.
C'est le moment de ranger. Rendez-vous vite dans votre magasin Ikea ou sur Ikea.fr pour créer le dressing de vos rêves grâce à des milliers de possibilités de styles et d'aménagements, toujours à petit prix.
Ikea.
C'est fait, j'ai déposé ma demande de retraite en ligne. Je n'ai eu qu'à créer mon espace personnel sur l'assurance-retraite.fr et joindre les pièces justificatives demandées. C'est rapide, facile et sécurisé.
C'était un message de l'assurance retraite, votre retraite de la sécurité sociale.
Il est 9h20.
France Inter, le 7-9. Intervenez.
Didier Migaud, le premier président de la Cour des comptes avec nous jusqu'à 9h. Et Frédéric qui nous appelle de Pontivy. Bonjour Frédéric.
Oui, bonjour Monsieur Migaud, bonjour,
bonjour
à tous.
Bonjour.
Alors effectivement, je souhaitais tout d'abord féliciter Monsieur Migaud pour les rapports successifs de la Cour des comptes visant à rétablir nos comptes publics, nos finances publiques. Les déficits sont excessifs, l'endettement public est inquiétant et je pense que la Cour des comptes fait œuvre de pédagogie en la matière et c'est heureux. Je souhaitais par contre, Monsieur Bigot, vous interpeller sur la partie du rapport que vous avez rendu public hier consacré à l'écotaxe. Alors je représente le collectif des acteurs économiques bretons contre l'écotaxe. Pour donner un peu de crédit à mon propos, je précise que j'ai commis un livre qui s'appelle Écotaxe, les coulisses d'une victoire.
Ça c'est fait.
Qui est sous-titré L'abandon de l'écotaxe a fait économiser 1,5 milliard d'euros à l'État. Et la Cour des comptes, elle, annonce que l'abandon a coûté 1 milliard d'euros. Effectivement, l'État a dû verser à Ecomove et à ses partenaires une indemnité d'un milliard d'euros. Mais l'État devait contractuellement verser 240 millions d'euros par an à Ecomove et pendant 11 ans. Et bien entendu, au-delà, puisque l'écotaxe avait vocation à être pérenne. Et 240 millions d'euros sur 11 ans, ça fait 2,6 milliards. Et donc 2,6 milliards moins 1 milliard, ou 1 milliard 100, l'État a économisé de l'ordre d'1,5 milliard en abandonnant l'écotaxe. Et pour nous, ça c'est un point extrêmement important. Le deuxième élément, c'est que sur les ondes, hier, nous entendions que l'État avait perdu une recette de 11 milliards d'euros sur la période considérée 2014-2024. Or, lorsqu'on lit le rapport de la Cour des comptes, et sur ce point il est très juste, il est indiqué que la recette de substitution, la TICPE, la taxe intérieure sur la consommation de produits énergétiques...
La taxe sur le diesel qui a été mise en place à la place de l'écotaxe.
Exactement. A rapporté 1,5 milliard de plus, ou rapportera 1,5 milliard de plus sur la période considérée. Et dans la mesure où l'État n'a pas restitué aux collectivités locales ce qu'il aurait dû restituer avec l'écotaxe, le gain net pour l'État, et M. Migaud pourra le confirmer, est de 3,3 milliards d'euros. Et donc, je tenais à dire que pour les comptes publics de la nation, l'abandon de l'écotaxe a été au contraire une source de recettes supplémentaires à hauteur de 3,3 milliards d'euros sur la période considérée, que si on parle du coût de l'abandon et de l'économie de concessions versées à Ecomove, là, le gain net est de l'ordre d'1,5 milliard d'euros.
Bon, Didier Migaud, c'était une bonne affaire, donc, finalement, de supprimer l'écotaxe.
Non, merci.
C'est l'argument qu'on a entendu, celui que prend Frédéric, dans la bouche de Ségolène Royal hier, qui a critiqué aussi votre rapport en disant on aurait dû payer aussi pendant des années ces 200 et quelques millions d'euros à l'entreprise Ecomove.
Parce que ça faisait partie des modalités de mise en œuvre du recouvrement de cette écotaxe. Nous raisonnons, comme je l'ai dit tout à l'heure, par rapport à des objectifs qui sont fixés par le Parlement. Quel était l'objectif fixé par le Parlement ? Une écotaxe poids lourd pour faire en sorte que les transporteurs routiers puissent contribuer de façon plus active, plus forte, à l'entretien du réseau routier. Bon. Et parmi les transporteurs routiers, faire en sorte que les poids lourds internationaux qui traversent la France puissent contribuer davantage à l'entretien de ce réseau. Le public concerné, c'était environ 800 000 poids lourds, dont 250 000 étrangers. Alors, ce que nous constatons, c'est que, effectivement, l'abandon de cette écotaxe poids lourd qui avait été décidée à l'unanimité par le Parlement.
Bon, dans la foulée ensuite, du Grenelle de l'environnement.
Qui ensuite a reculé par rapport à quelques mouvements de contestation. Il ne s'appartient pas de savoir si c'est légitime ou pas. Une fois de plus, c'est une décision souveraine des pouvoirs publics. Mais nous constatons que c'est un abandon qui a représenté un coût, parce qu'un certain nombre de dépenses avaient été engagées, il a fallu indemniser, et non seulement il a fallu indemniser, mais il a fallu trouver une recette de compensation. Et effectivement, il y a une recette de compensation. Mais ceux qui payent ne sont pas les mêmes. C'est aux antipodes de l'objectif qui était recherché, à savoir une participation plus importante des poids lourds à l'entretien du réseau. Et aujourd'hui, ce sont davantage les automobilistes qui payent. Voilà, donc nous faisons ces constats. Bon, et après, on peut faire tous les commentaires que l'on veut, mais ce sont des constats qui sont également tout à fait objectifs.
On retourne au standard dans un instant. D'abord, Bruce de Galzin.
Sauf qu'au bout du compte, l'État gagne de l'argent dans cette histoire. Gagne en effet 1,5 milliard d'euros sur 10. Est-ce que hier, ce que vous mettez en avant dans le rapport, c'est qu'en effet, le chiffre est surprenant. 11 milliards au total, 1 milliard de pertes, 10 milliards de manque à gagner. Et finalement, au bout du compte, non, l'État va gagner de l'argent.
Ben, ça, nous serons en mesure de l'apprécier sur le long terme, ce que vous dites. Le problème, c'est pas de savoir si l'État gagne de l'argent. À la limite, c'est pas difficile pour l'État de gagner de l'argent en augmentant des taxes. Le problème, c'est de savoir si ça correspond à l'objectif que vous avez défini au départ. Bon, c'est une écotaxe poids lourd. C'est devenu une taxe sur les automobiles. Bon, donc c'est pas tout à fait la même chose.
L'État gagne et l'automobiliste perd.
C'est pas tout à fait la même chose. Bon, donc voilà. Donc c'est ce que nous disons.
Robert nous appelle de Pau. Bonjour Robert, bienvenue sur l'antenne de France Inter. Didier Migaud vous écoute, nous aussi.
Oui, bonjour Monsieur Migaud.
Bonjour.
Oui, vous avez certainement raison de dénoncer les excès, mais y a-t-il seulement des recommandations ou est-ce qu'il y a aussi des contraintes de redressement? Sinon, à quoi sert la Cour des comptes? Vous avez parlé de 10 milliards de manque à gagner en écotaxe, mais si j'avais payé 100 euros d'écotaxe, il me resterait moins de 100 euros, donc ces 100 euros... sont transférés forcément ailleurs, j'ai dû acheter quelque chose avec. Donc finalement, sur le plan des finances publiques, la TVA, sur ces 100 euros, sont rentrés dans les caisses de l'État. Mais aussi, qui contrôle la Cour des comptes? Combien de personnes êtes-vous à la Cour des comptes? À combien se monte cette dépense? Quelles sont vos rémunérations, vos avantages, vos privilèges, peut-être vos excès ou vos dérapages?
Allez, ça fait beaucoup de questions, Robert.
Il s'agit de transparence. Au fait, la Cour des comptes aurait-elle pu s'apercevoir des dérives et des excès sillons?
Alors, plusieurs questions. Un, qui contrôle la Cour des comptes? Est-ce qu'il y a une Cour des comptes pour la Cour des comptes?
Alors, il n'y a pas de Cour des comptes pour la Cour des comptes. Nous sommes soumis au contrôle du Parlement. C'est le Parlement qui vote nos budgets. Vous avez des rapporteurs spéciaux qui sont désignés par la Commission des finances, qui contrôlent nos budgets. Nous faisons également contrôler nos procédures comptables par un cabinet d'experts comptables privé désigné par l'ordre des experts comptables, et nous nous soumettons régulièrement à une revue des pairs, c'est-à-dire d'autres institutions supérieures de contrôle qui viennent contrôler nos fonctionnements et nos dépenses. Nous avons eu les Finlandais, nous avons eu les Suisses et nous avons eu les Portugais, donc ce sont des revues des pairs. Donc nous sommes soumis au contrôle, nous rendons des comptes, nous c'est tout à fait légitime, et je participe à des réunions tous les ans avec les rapporteurs spéciaux des commissions des finances du Sénat et de l'Assemblée.
L'affaire Fillon et plus généralement l'argent des parlementaires, députés, sénateurs?
Alors, vous le savez, la Cour des comptes ne contrôle pas le Parlement, le budget de l'Assemblée nationale et du Sénat, donc les moyens des députés et des sénateurs, ça ne fait pas partie de ces missions.
Pourquoi ?
Ah, ça, c'est pas la Cour qui fixe la loi, qui vote la loi. La Cour, elle a des missions que lui reconnaît la Constitution et les lois de la République. Et ça ne fait pas partie des missions de la Cour des comptes. C'est vrai que dans d'autres pays...
Vous le regrettez?
Je n'ai pas à le regretter. Moi, j'ai à appliquer la loi et à rester dans le cadre des missions que nous confère et la Constitution et la loi. Après, ce sont des décisions qui relèvent des représentants du suffrage universel.
Bruce de Galzin.
L'auditeur le disait, certains députés s'en émeuvent. L'auditeur Robert. certains députés s'en émeuvent. La Cour coûte cher. La Cour reclasse quelques politiques qui sortent de l'ENA et qui arrivent, bien entendu, à la Cour des comptes et puis qui y reviennent. Est-ce que l'on connaît, on est transparent sur le budget de la Cour des comptes?
Là, bien sûr, mais il est voté par le Parlement. Il est de l'ordre de 205, entre 205 et 210 millions d'euros pour l'ensemble des juridictions financières, à la fois la Cour des comptes et les chambres régionales des comptes, pour un plafond d'emploi de 1840 emplois. Quand vous raisonnez par rapport aux institutions supérieures de contrôle qui existent au Royaume-Uni, qui existent en Allemagne, nous avons des effectifs moindres et un budget également moins important. Donc voilà, il faut savoir si on veut contribuer au contrôle et à la transparence. Mais nous rendons des comptes, nous pensons être utiles à travers nos constats, nos observations, et notamment dans ce rôle d'information du citoyen, à la fois éclairer le décideur et puis informer le citoyen. Sur le reclassement, ça c'est le tour extérieur, il relève des autorités de nomination, mais la très grande majorité des magistrats de la Cour sont des personnes indépendantes. Vous savez, nous avons un statut qui garantit notre indépendance, nous sommes des magistrats, nous sommes une juridiction, nous avons aussi des procédures qui garantissent notre impartialité. Parce que tout ce que nous écrivons est contredit, a été contredit avec les entités contrôlées. Et puis, le rapport de la Cour, un rapport de la Cour, ça n'est jamais le rapport d'une personne, d'une équipe de rapporteurs. C'est soumis à des collégialités, à des débats en collégialité. Et c'est ce qui, je crois, fait le crédit de la Cour et qui garantit l'impartialité de la Cour.
C'est contredit et cela apparaît dans chaque rapport à chaque fois.
Bien sûr, et nous avons les réponses en plus des entités que nous contrôlons.
On peut embaucher son épouse, sa femme ou ses enfants à la Cour des comptes ?
Nous n'avons pas de... ce sont des sorties de l'ENA, c'est pas le premier président qui nomme.
Il n'y a pas d'interdiction formelle comme celle... On sait que c'est légal au Parlement, c'est interdit par exemple au Parlement européen. Il n'y a pas des règles internes à la Cour des comptes pour veiller à ce...
C'est par concours que vous rentrez.
Pas les assistants. Je suppose qu'il y a des postes d'assistants aussi à la Cour des comptes, non?
Il y a des postes de vérificateurs. Je ne sais pas s'il y a des couples qui sont présents à la Cour des comptes. Alors, il y a des couples qui peuvent peut-être se former.
Mais vous n'avez pas embauché votre famille, a priori, vous le sauriez.
Non, je n'ai pas en plus ce pouvoir.
Michel est à Saint-Malo. Bonjour Michel, on vous écoute.
Oui, bonjour. Merci monsieur Didier Migaud. C'est très intéressant, on apprend beaucoup de choses. On informe le citoyen par votre rapport. Mais si vous voulez, moi je trouve qu'on l'informe, on entend parler du rapport une fois par an. Les journalistes après ne font pas de suivi sur corrections qui auraient pu être apportées. Et à ce niveau de correction, est-ce que vous émettez pour les administrations des notes, des conseils pour éviter que les erreurs produites à un endroit ne se reproduisent à un autre endroit?
Oui, merci monsieur. Oui, d'ailleurs, nous constatons souvent que dès le début d'un contrôle, il y a un certain nombre de choses qui peuvent se corriger. Vous savez, les fonctionnaires ou les personnes qui travaillent dans les entités que nous contrôlons, elles ont, je crois, le souci de bien faire, dans leur immense majorité. Donc à partir du moment où, en dialoguant avec eux, on peut leur permettre de progresser, d'avoir une action publique plus efficace, plus efficiente, elles sont tout à fait preneurs. Bon, donc dès le début d'un contrôle, on peut constater un certain nombre d'améliorations. Nous avons un suivi des recommandations. Nous suivons les recommandations que nous exprimons. Les suites qui sont apportées à nos recommandations sont de l'ordre de 72% positivement, dont 25% de suivi en totalité, de mise en œuvre en totalité. Donc il y a des choses positives. Alors c'est vrai qu'on a souvent en tête la situation des finances publiques ou bien telle ou telle situation. Donc voilà, mais il faut être constant dans nos observations. C'est normal qu'il puisse y avoir un contrôle régulier. le fait d'avoir un regard extérieur par une institution indépendante, je crois, est utile. Bon, j'entends parfois que ce rôle est contesté, mais c'est, ça existe dans toutes les démocraties modernes, d'avoir ce regard extérieur, étant entendu que ceux qui décident en dernier ressort, ce sont les représentants du suffrage universel, ce sont les gouvernants. Donc voilà, et puis nous avons ce rapport public annuel, mais tout au long de l'année, nous publions des rapports sur un certain nombre de sujets, nous publions aussi, nous rendons public des référés, c'est-à-dire c'est un courrier du Premier Président, au Premier Ministre, au ministre qui attire son attention sur un certain nombre de dysfonctionnements.
On peut vous interpeller directement ou vous auto-saisissez des dossiers que vous allez examiner?
Ah, nous avons, ça fait partie de notre indépendance, nous avons notre liberté de programmation. Nous répondons
un
à
citoyen ne peut pas vous appeler en disant je voudrais...
Non, ben c'est le... En revanche, si nous avons des signalements répétés, nombreux, sérieux, nous pouvons effectivement déclencher un contrôle, l'inscrire dans notre programme. Mais nous avons cette liberté de programmation, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des demandes d'enquête par le Parlement, par l'Assemblée nationale, par le Sénat, par le gouvernement, mais ça doit rester dans une proportion qui nous garantit encore notre indépendance et notre liberté de programmation.
Bonjour Augustin Trapenard.
Salut Marc.
Vous avez une question pour notre invité?
Oui, bonjour Didier Migaud. Vous savez qu'on appelle les cost killers. Hein. Il faut bien le dire, vos rapports recommandent souvent de supprimer les effectifs et de réduire les dépenses, notamment dans les établissements culturels. C'est d'ailleurs le cas de ce rapport que vous venez de publier sur les archives nationales, notamment. Et ce qui me frappe, moi, c'est qu'on pense toujours ces établissements culturels en termes de gestion, beaucoup plus que sous l'angle du projet culturel. Et la plupart de ces établissements, vous le savez, sont gérés par des hauts fonctionnaires. Ma question, c'est est-ce que le gestionnaire n'est pas constamment en train d'empêcher, de contraindre la culture et la création?
Ben, je ne crois pas, mais c'est un équilibre qu'il faut trouver. Bon, parce que la liberté de création, c'est très bien, mais tout ça a un coût, c'est financé par le contribuable, donc on doit trouver les bons équilibres, faire les choix politiques. La Cour des comptes, une fois de plus, n'est pas contre la dépense publique. Nous sommes nous-mêmes des magistrats, donc des fonctionnaires. Bon, donc nous sommes attentifs à ce que l'action publique soit la plus efficace, la plus efficiente possible, à partir des objectifs qui sont définis par les représentants du suffrage universel. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que nous constatons qu'il y a des marges d'efficacité, des marges d'efficience. Bon, pour faire en sorte que l'action publique soit tout aussi efficace, voire encore plus efficace, sans obligatoirement dépenser beaucoup d'argent.
Et d'ailleurs, dans ce que... La culture et la création se mesurent en termes d'efficacité, précisément, Didier Migaud.
Ben oui, il y a des. Oui, mais alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez droit à des budgets illimités? Non. Et puis oui, des budgets illimités, mais qui doit les payer? Le contribuable, le spectateur? Il faut trouver le bon équilibre. On a des comptes à rendre, y compris dans le domaine culturel. Bon, c'est pas donc c'est oui, il y a une liberté, il y a une création qui doit pouvoir être assumée, mais ça fait partie des priorités gouvernementales. Mais après, vous avez aussi des contraintes. Il n'y a pas de raison que les contraintes ne s'expriment pas pour chacun.
Augustin, votre invité dans Boomerang, dans un quart d'heure.
C'est Jacques, le DJ et musicien qui étonne, qui détonne, qui cartonne. Vous le connaissez sans le connaître, puisque Didier Varro lui a emprunté une version de son dernier single pour le générique de son émission Full Sentimental. Regarde tout ce qu'on peut faire dans la radio. Alors, on n'en reparle pas de mon chant, mais de Jacques
on pourrait,
dans Boomerang, évidemment.
À tout à l'heure, Augustin. Frédéric Becbédé, c'est à vous.
Bonsoir la France, bonsoir Marc. Le poème du jour, je l'ai trouvé dans un roman américain de Lauren Groff, Les Furies, qui était le roman préféré de Barack Obama l'an dernier. À un moment, l'auteur cite une pièce de Shakespeare pas très connue qui s'intitule Timon d'Athènes. Pauvre et honnête seigneur, conduit si bas par son propre cœur, vaincu par la bonté, étrange humeur inhabituelle quand le plus grand péché de l'homme est d'avoir trop fait le bien. Je rappelle l'objet de ma chronique, à part frimer avec des citations, résoudre en 3 minutes les problèmes que personne n'a su régler en 30 ans. Hein. Aujourd'hui, l'immigration. Bon, alors je vais résumer le contexte. Nous, les humains, nous habitons tous la même planète, et cette planète, non seulement elle se réchauffe, mais en plus elle rétrécit. Partout, nous regardons les mêmes images sur Internet. Des humains veulent fuir la guerre, la famine, la misère, ou bientôt la montée des eaux. D'autres humains ont peur d'accueillir ceux qui veulent se déplacer et reconstruisent des frontières avec des murs électrifiés. Donc le problème est simple. C'était une bonne idée de créer des pays pour protéger les gens nés à un endroit, mais premièrement, Shakespeare dit que le plus grand péché de l'homme est d'avoir trop fait le bien. Deuxièmement, John Lennon chante ceci. Donc, on ne sait plus quoi penser. Je connais de très belles Syriennes qui convertiraient Donald Trump en militant du droit d'asile. Mais je ne m'aventurerai pas sur ce terrain scabreux. Certes, il faut aider les pays d'origine pour donner envie aux migrants de rester chez eux. Mais si on est un humaniste, il faut aussi accueillir les humains. Et pas seulement par altruisme. Un élément dont on ne tient jamais compte quand on parle de la nationalité, c'est la natalité. On se plaint que nos campagnes soient vides. Voilà un moyen de les repeupler. C'est pour ça qu'Angela Merkel a accepté 1 million de réfugiés, parce que les Allemands ne font pas assez d'enfants. Mais là n'est pas le fond du problème. Pourquoi suis-je français ? Parce que je suis né en France de parents français. Mais ai-je choisi de l'être ? Non. Les migrants, eux, choisissent notre pays. Ils lui rendent hommage. Moi, je me suis contenté de naître ici. C'est comme autrefois pour la noblesse. Les aristocrates disaient « Je descends de la duchesse, de machin truc ». On se souvient de la célèbre réplique de Madame de Maintenon « Vous descendez, moi, je monte ». Un homme qui désire être français n'est-il pas davantage patriote qu'un français de naissance ? Ma solution au problème, c'est de voter une constitution mondiale. Vous naissez citoyen de la Terre et à votre majorité, on vous demande quel pays vous choisissez. Nous, les Français, on est persuadés que tout le monde choisirait la France. Mais sur le classement de l'économie positive, tenant compte de 29 indicateurs, qualité de vie, pollution, éducation, santé, services publics, etc., c'est les pays nordiques qui sont premiers, puis la Suisse. La France est 18e. Il n'y a pas forcément grand monde qui voudrait vivre chez nous parce qu'il y a mieux ailleurs. D'ailleurs, on parle tout le temps des immigrés, mais on oublie les émigrés, les nombreux Français qui s'expatrient, qui quittent notre pays par curiosité, goût du voyage ou dégoût du fromage. Alors ouvrons nos portes aux quelques terriens voyageurs assez fous pour vouloir vivre quelques années en France, à condition qu'ils respectent 4 principes de base. La femme est l'égale de l'homme, les homosexuels ont les mêmes droits que les hétérosexuels, on a le droit de faire des blagues sur la religion sans être décapité, et si on vit en France, on paie ses impôts en France, des principes simples que même nos hommes politiques ne respectent pas tous, et encore moins nos hommes d'affaires. Voilà, vous voyez, c'était tout de même pas compliqué. La semaine prochaine, je réglerai le problème du chômage en 3 minutes 30. Merci qui ? Merci Freddy.
Merci Frédéric Becbédé. Rendez-vous la semaine prochaine. Et merci à Didier Migaud d'avoir été
Merci, c'est moi qui vous remercie.
Dans le studio de France Inter, 9h passées de 50 secondes.